Fréquence protestante, le Midi Magazine, Claude Boulanger.
Bonjour, eh bien, c'est une belle joie que je vous propose aujourd'hui dans notre rencontre avec Caroline Riegel. Bonjour Caroline.
Bonjour Claire.
Alors Caroline, vous êtes ingénieure en hydraulique, c'est-à-dire que vous construisez des barrages, mais la deuxième passion de votre vie, c'est de rencontrer les autres, surtout les autres qui habitent loin d'ici, très loin d'ici, au Gzanskar, un groupe de nonnes bouddhistes, et vous avez avec elles... Pour elle, avec elle et à leur tour, elle vous apporte énormément, fait un extraordinaire voyage à travers l'Inde en partant de leur pays du Gzanskar, de leur petit village avec un fleuve gelé. Et vous avez fait un film extraordinaire qui s'appelle Semeuse de joie, c'est-à-dire que ces femmes qui paraissent à l'opposé du monde, complètement isolées, en fait, elles vont vous irradier de joie. Vous leur apportez vous-même votre soif de vie. Et à notre tour, nous tous sommes touchés et on va apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur le pays, sur ce qu'elles nous apportent. Alors, merci de tout cœur d'être là. Caroline, vous avez fait un film, on va le dire tout de suite, qui a eu des prix. Alors, j'ai vu que ça a eu le prix le disque d'or des Diablerets en Suisse en 2016. Quand même, les Suisses sont de grands photographes, surtout qu'il y avait eu un Suisse, Olivier Foll, hein, qui avait fait
Olivier
le Ladakh.
Colmy. Voilà. Qui a beaucoup été au
beaucoup
aux Oscars,
donc,
en effet,
on sait que les Suisses, ils connaissent les hautes montagnes et l'Himalaya, donc ouais. Être célébré par eux, c'est quand même un signe. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu, dans votre vie, vous êtes ingénieur en hydraulique, les barrages, vous avez vécu au Pérou, vous avez été au Gabon, vous étiez venu aussi pour cela, en Équateur, même à Lahore ou au Pakistan, quel était le but? Quand, il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, vous avez voulu partir sur les méandres de l'Asie, depuis le lac Baïkal au Bengale. C'est comme ça que vous allez entrer au Gzanskar.
C'est comme ça, en effet, que j'ai passé un premier hiver au Gzanskar, au cœur de ce voyage à travers l'Asie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça? Ça s'explique pas trop. Je pense que c'est un peu de l'ordre du cœur, des tripes, du viscéral, un peu comme l'amour. Voilà, tout d'un coup, ça vous tombe dessus. On n'explique pas pourquoi. On ressent le besoin de partir, d'aller plus loin, d'aller par-delà l'école, les horizons, on est nourri, je dirais que, enfin, j'ai de la chance dans mon enfance, dans ma jeunesse d'être nourri du monde, hein, de sa diversité, de sa richesse. Et un jour, on a juste vraiment envie de la découvrir, de la comprendre. Il y a un besoin absolument viscéral de comprendre l'humanité. De comprendre pourquoi finalement il y a tant d'injustices, tant de choses qui vont pas, parce que forcément le monde semble tellement beau, la vie semble peut sembler tellement belle, tellement joyeuse, qu'on a besoin d'aller comprendre, d'aller sonder, et je pense que c'est quand même ce qui au plus profond de moi-même m'a motivée.
C'était ça, au départ.
À faire un voyage. Et après, pour moi, la rencontre, la chose qu'on est quelque part la plus riche, ou une des plus riches, des plus précieuses, nous, c'est pas forcément l'argent, c'est le temps, parce que le temps, bah, c'est notre existence, et le temps, c'est tout ce qu'on peut vraiment partager avec les gens. L'amitié ne se fait pas sans temps, apprendre, comprendre ne se fait pas sans temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu partir aussi longtemps, pour avoir le temps vraiment de m'immerger au plus près des populations locales, d'apprendre un maximum de choses sur leur langue, de pouvoir avoir du temps de se comprendre, d'échanger, de partager des choses, comprendre leur vie, et puis du coup de me forger un autre regard sur le monde que celui que j'avais du haut de ma vie d'occidentale, on va dire.
D'occidentale. Alors, Plusieurs choses. D'abord, le Zanskar se trouve dans l'Himalaya, tout près du Ladakh. Hein.
Alors, ça fait partie de la région du Ladakh, ouais. On est entre le Tibet et le Cachemire, dans le nord-ouest de l'Inde.
À 3500 dans les bas, le coin le plus bas, hein.
Voilà, c'est ça. Globalement, c'est une vallée himalayenne à 3500 mètres d'altitude.
Le ciel y est d'un bleu, vous dites un bleu presque rigide quelquefois, étincelant.
Bah, c'est vrai que ça fait partie de ces endroits de la planète où on semble plus proche du ciel, donc des étoiles, donc du bleu du ciel, donc de sa lumière, donc ouais.
Et il y a une muraille extraordinaire en face de vous, dans votre fenêtre. Comme vous...
Alors par contre, à l'inverse du désert où on a l'impression d'avoir l'horizon à 360 degrés, là, effectivement, on est encerclé par l'horizon. Il est ciselé par une ligne de crête et on ne voit finalement du ciel que ce qu'il y a entre cette ligne de crête. Ouais,
c'est un cadre très particulier.
C'est un cadre assez majestueux.
Un majestueux qui vous met en même temps, mais non minéral, pas à l'abri du reste du monde, mais dans un monde, et vous avez souhaité aller dans un monde clos qui gardait encore des traditions.
Ben, on se sent un peu à l'abri du reste du monde. C'est pas complètement faux comme expression quand on y réfléchit bien, parce que c'est vrai que surtout l'hiver, quand on est... Et le premier hiver, donc c'était en 2004-2005, que j'ai vécu là-bas, il n'y avait aucune communication, aucune route, donc pendant l'hiver, au cœur de l'hiver. Et c'est vrai que là, on se sent vraiment loin du reste du monde, loin des affres du monde. Mais du coup, je pense que c'est aussi ce qui permet d'être beaucoup plus fortement dans l'instant présent. Le fait de ne finalement pas savoir ce qui se passe ailleurs où on n'est pas, et où on ne peut pas être à ce moment-là, fait qu'on va être beaucoup plus présent, beaucoup plus imprégné de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort à vivre quand même.
Alors, vous arriviez quand même du désert du Gobi. Enfin, quand on y pense, c'était très chaud, avec des loups, d'ailleurs, que vous avez rencontrés. Enfin,
je ne les ai jamais vus.
Mais vous disiez, hein.
Je les craignais un peu.
Mais vous arrivez dans ce monde-là. Et j'ai été frappée que vous choisissiez d'hiberner, enfin, de passer 7 mois pour justement prendre du temps. Et on va dire aussi que quand même, vous venez d'Alsace avec un rapport par votre famille. Vous avez eu la joie dans votre enfance de connaître encore un monde campagnard, simple, avec les plaisirs auprès de vos grands-parents, avec les vaches. Enfin, une nature encore qui gardait quelque chose d'immuable d'autres générations. Que d'autres enfants n'avaient pas eu d'Alsace.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas une citadine et que dans mon âme et dans mon cœur, je le suis pas et je le serai jamais vraiment. Ça, c'est
donc
certain.
Quand vous rencontrez des paysans de ce monde qui vivent à un rythme lent comme était celui de vos ancêtres dans ces villages de Kinsheim et puis après l'Ottenbach dans la vallée de Master, c'est quand même un monde aussi qui était très fort, qui avait une imprégnation religieuse, même si c'était pas une question religieuse, c'est qu'il y avait quelque part des références que vous allez retrouver tout à fait différente, peut-être, au Zanskar. J'en profite aussi pour vous souhaiter bon anniversaire, parce que c'est quand même une joie pour notre radio de vous le fêter. Mais je veux dire que c'est important. Ça m'a frappé en relisant le livre qui accompagne, d'une certaine manière, Méandre d'Asie, qui est apparu chez Phébus, où vous racontez ceci. Alors, c'est étonnant d'accepter, vous allez accepter une vie très simple aussi, sans savoir la langue, parce que quand même c'est difficile le Zanskari.
Ah ben j'ai appris très vite parce que c'était un peu l'objet, c'était mon quotidien pendant ces 2 ans de voyage. Hein. Je travaillais les langues où j'étais tout
vous
le temps.
Vous en savez 7, hein, je crois quand même.
Oui. Ouais. Et donc je travaillais ça tout le temps. C'est quelque chose que j'aime vraiment, je me passionne. Donc ça c'était un plaisir au contraire pour moi. D'avoir le temps de travailler une langue, d'être immergé pour la pratiquer et pour après c'est vrai que l'hiver himalayen, je pense que c'était un de mes rêves les plus ancrés. D'où est-ce que ça sort? C'est quand même difficile à dire. Est-ce que ça sort de finalement de ces moments de joie, de ces de mon enfance. Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que certains diraient que c'est mon karma? Ça, les nonnes aiment à penser, je crois, qu'on a dû se rencontrer dans une vie précédente, parce que c'est pas possible pour elles d'imaginer qu'on ait eu une telle relation dans cette vie-là, qu'on soit rencontrés, qu'on soit allés si loin dans l'amitié, dans ce qu'on a vécu ensemble.
Mais c'est des affinités, je sais pas, enfin, une forme d'affinité, oui, de compréhension.
Sûr, j'ai vraiment vécu mes rêves les plus, je pense, les plus ancrés en passant un hiver aux Anskar, un premier hiver aux Anskar, dans ce voyage de 2 ans.
Alors, au cours de ce voyage, justement, c'est un temps très spécial, c'est presque comme un temps d'avant, un temps de Noël, enfin, très, très particulier. Et aussi, pour nos auditeurs, on va dire aussi que vous êtes habitués et vous aimez, parce que ça va être important quand vous allez être sur le fleuve gelé. Vous aimez aussi les sociétés de femmes, de nonnes, la vie d'un village avec le maire, les autorités, les uns, les autres qui ont de la chance, pas que ceux qui n'ont pas de chance, et aussi une société d'hommes. Et vous avez été ingénieur hydraulique, donc vous dites que vous avez l'habitude aussi de rencontrer des groupes d'hommes.
Ah ben c'est sûr, j'ai l'habitude
de
travailler
de
dans
commander
des...
avec des hommes. Et ça va être important quand vous allez vous retrouver comme porteuse sur le lac gelé. C'est ça. Hein. Vous aviez pour vous montrer que vous étiez égal à eux, enfin pour leur faire comprendre aussi que vous étiez pleinement, vous avez choisi ce métier pendant l'hiver. Vous êtes professeur auprès des nonnes et des enfants.
De l'école gouvernementale, ouais.
Ouais, l'école gouvernementale. Il y a l'école, elle est mixte, l'école gouvernementale.
Ouais.
Mais en côté, il y a l'école des nonnes. Alors, on va voir aussi avec vous ce que c'est.
Alors, il n'y avait pas à l'époque.
Il n'y avait pas. Ouais. Mais il y avait un groupe de femmes que vous appelez les chaperons rouges. 9 femmes de entre 20 et 60 ans, hein.
Elles étaient même 12 quand je les ai rencontrées en 2004, ouais. Et avec de 20 à plus de 80 ans.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nonne bouddhiste?
Alors là, on est dans le bouddhisme tibétain. Donc, même plus directement, elles sont de la lignée des Gelugpa, des bonnets jaunes, qui est la lignée du Dalai Lama. Donc, ce sont vraiment des disciples du Dalai Lama. Non, c'est pas
non,
plus
c'est
d'ailleurs le Dalai Lama condamne suffisamment le sectarisme qui peut y avoir, qu'il soit religieux ou qu'il soit dans la société. Mais non, c'est vraiment juste que c'est on imagine le Dalai Lama, bon ben on comprend qui sont les nonnes du coup, parce que elles sont vraiment dans disciples.
Et c'est des formes de vie, enfin je veux dire, elles consacrent leur vie à quoi?
Pourquoi à la prière.
À la prière.
Et la prière. Idéalement, à la prière. Alors, elles ont beaucoup travaillé parce que les nonneries aux Anskar n'ont aucune ressource. Mais ça, c'est vrai qu'on le sait pas toujours. Les monastères sont quand même riches. Les grands monastères tibétains étaient riches. Les monastères qui ont été reconstruits, où ça a été dur après l'exil tibétain. Mais quand même, aujourd'hui, ce sont des monastères extrêmement riches, avec des niveaux d'éducation très élevés, hein. Mais les nonneries, toutes ces petites nonneries du Zanskar, du Laoul, du Spiti, du Ladakh, elles n'avaient aucune ressource.
Comme autrefois, un petit monastère donc, en France qui travaillait la terre.
Voilà. Et donc, ce sont des femmes qui passaient leur temps à travailler à la maison.
Mais elle prie pour elle-même, pour les autres, pour...
Alors dans le bouddhisme tibétain, il faut vraiment... L'éveil ne passera que par une volonté absolue et absolument sincère de bonheur, de compassion, enfin de bonheur pour les autres.
Et pour soi? Non?
Je peux pas,
pour les autres,
moi je suis pas bouddhiste, donc il faut pas trop me demander
je comprends
ouais. Vraiment que dans les grandes lignes, mais à un moment il faut véritablement vouloir que son éveil soit là pour les autres, pour l'humanité entière, et que la compassion, il faut qu'elle soit développée. La compassion, c'est être capable finalement aussi de se mettre
à la place de l'autre.
Donc on pense souvent que le bouddhisme, c'est un recentrement sur soi-même. Non. C'est pas tout à fait si simple en fait. C'est qu'on ne peut changer que soi-même. Vouloir changer le reste du monde, vouloir changer les autres, c'est une peine perdue. La seule personne sur laquelle on puisse avoir une influence, c'est soi-même. Donc il faut travailler à se changer soi-même. Mais se changer soi-même, c'est vouloir, à un moment, être suffisamment fort sur ses émotions, sur sa maîtrise, quelque part, de soi, mais pour le bien des autres. pour c'est développer la compassion de façon absolue, c'est développer la bienveillance, l'altruisme, les valeurs fondamentales qui sont d'ailleurs, pour les citer, donc la générosité, l'éthique, la tolérance ou la tolérance et la patience. C'est intéressant parce que c'est un seul mot en tibétain pour les deux, tolérance et patience, l'effort. Ensuite, il y a effectivement la méditation, le discernement et la sagesse.
Et Caroline Riegel aussi, elles vivent ensemble, c'est de rester ensemble dans une même maison.
Alors, ce qu'il y a vraiment de remarquable avec les nonnes, avec ces nonnes, avec ce groupe de nonnes, mais il y en a d'autres aussi, mais moi je connais
celui
quand même
que
très,
vous
bien,
connaissez de
je connais
village.
Très bien elle, et elle, ce qui est absolument remarquable, c'est qu'elles ont, ce sont des individualités très différentes. Et en même temps, il y a une individualité de groupe. Elles ont cette capacité à vivre ensemble, et c'est un sens très très aiguisé et très très voulu. Enfin, vraiment travaillé, je veux dire, de l'harmonie, du vivre ensemble, du partage ensemble, pour grandir chacune individuellement et tout ensemble. Et ça, c'est assez étonnant.
Alors, elles sont. Comment est-ce que vous avez senti qu'il fallait les aider à s'éduquer? Enfin, à acquérir des connaissances tout en restant pour elles-mêmes et avoir ce goût d'un voyage.
Ben moi, je peux pas leur apprendre grand-chose. Quelque part, pour elles, leur chemin de vie, ce sont quand même des femmes de prière, ce serait de comprendre tous les textes, d'être
d'accord,
très avancées. Moi, là-dessus, je peux tellement rien faire que...
Mais alors ?
Après, moi, j'ai eu la chance de voyager, et j'ai en tout cas le sentiment que le voyage est une école de la vie, est une forme d'école de la vie, de la diversité, du comprendre l'autre, de vivre avec l'autre. Et j'ai la chance que le Dalai Lama soit dans ce discours-là, c'est-à-dire que pour lui, la connaissance, c'est pas juste les textes. Les textes, c'est la connaissance de la vie, c'est la connaissance de l'autre, c'est la connaissance du monde. Donc et donc un voyage, bah quelque part, c'est vrai que c'était la chose que moi je pouvais naturellement leur offrir. Moi, je reviens, je vais les voir tous les ans, on se voit, je leur parle du monde, je leur parle d'endroits où j'ai été, je me retrouve à vivre au Pakistan, je reviens leur parler du Pakistan, par exemple. Hein. Et elles, bah pour la plupart, n'ont jamais quitté la vallée. Et à un moment, bah, je pense que l'intimité qu'on partage, l'amitié qu'on a est tellement forte que on se retrouve de façon assez naturelle et presque imprévue, à rêver ensemble, à rêver de voyager ensemble. Enfin, c'est parti d'une boutade, vraiment. Hein. C'est parti de rien, en fait.
Cette promesse, elle a été faite en 2005, en quelque sorte, et elle va être réalisée combien d'années après?
Alors, c'est venu un peu plus tard.
Après,
un tout petit peu plus tard.
C'est
pas le premier hiver que j'ai vécu. Elle, comme elle le dit d'ailleurs dans le film, on pensait pas que tu reviendrais. Alors moi, en partant, j'avais fait une promesse de revenir. Et c'est la seule promesse que j'avais fait pendant le voyage de 2 ans à travers l'Asie. La seule vraie promesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on espère qu'on va les revoir un jour. On promet d'envoyer les photos, on promet d'écrire, on espère que... Mais revenir vraiment les voir, parce que c'est quand même pas, il faut du temps, on peut pas être partout.
Surtout que c'était tout à fait isolé à ce moment-là, enfin, il y avait pas de communication.
En les quittant, j'avais déjà été trop loin avec elles dans ce qu'on avait vécu, et je pouvais pas ne pas imaginer, ne pas revenir. Et je leur avais promis de revenir dans les 2 ans qui suivaient le retour de mon voyage. Ce que j'ai fait. Et ce qu'on a vécu par la suite, je me suis retrouvée à retourner tous les ans, ça c'est après la maîtrise de la langue, m'ont amené à revenir, mais un jour, en fait, on est, et sans le prévoir, on est dépassé dans l'amitié et on peut plus revenir en arrière. Et c'est un peu ce qui s'est passé.
L'engagement, quoi. L'engagement est fait. Et alors, vous allez proposer de voyager à travers toute l'Inde, enfin, découvrir le pays jusqu'au golfe du Bengale. Enfin, mais avant, je pense que j'aimerais, en fait, le plus extraordinaire de ce voyage, pour moi, c'est le récit de la traversée du lac, enfin, du fleuve gelé, de ce fleuve gelé, le Tchadar, qui tellement extraordinaire et qui fait la suite de votre propre voyage. Alors on va écouter la musique du Tchadar et puis après je voudrais que vous nous racontiez vous-même comment vous avez ressenti ce voyage quand vous l'avez fait la première fois comme porteuse et puis après comment vous avez, enfin, prendre la responsabilité de 9 femmes pour traverser ça qui elles n'ont jamais voyagé, ce que c'est avec les robes rouges c'est quand même formidable.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Claude Boulanger.
Merci Emmanuel de nous aider par la musique à se pénétrer de cette atmosphère. Alors, Caroline, on est en janvier 2005, un 15 janvier, et la veille, on vous a dit demain matin, on part. Poum.
J'avais demandé à partir. J'avais demandé si je pouvais accompagner.
C'est un métier d'homme.
Plutôt. Oui. Au Népal, il y a des femmes qui travaillent comme porteuses pour les groupes, aux Zanskars, non.
Mais ce groupe d'hommes, qu'est-ce qu'il allait chercher?
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas. Donc ces hommes qui partaient là le 15 au matin.
Ils cherchent de l'argent. C'est vraiment pour être payé.
Oui, mais là ils partaient entre eux. Ils ont emmené des paquets.
Il faut aller pour récupérer les touristes. Après les emmener sur
c'est
le fleuve.
C'est un peu comme un Sherpa dans l'Himalaya, c'est voilà. Ça. Seulement, c'est le fleuve gelé qui, c'est une région qui est impraticable. Enfin, il n'y a toujours pas de route,
L'hiver, il n'y a pas de. La piste, elle passe par un col à plus de 4000 mètres et ce col est complètement fermé par la neige l'hiver. Donc, en fait, le Zanskar est effectivement inatteignable en voiture l'hiver. Donc,
comme vous dites.
Et à pied, quand il y a 3-4 mètres de neige au niveau des cols, c'est pas possible non plus.
Donc, il n'y a que cette
voie un peu particulière qui est le fleuve Zanskar qui gèle totalement sur certains tronçons ou partiellement sur, Et donc, on peut marcher sur la glace. Parfois, il faut un peu escalader. Parfois, il faut marcher un peu dans l'eau. Parce que c'est un fleuve vivant, c'est capricieux, ça bouge tous les jours. Mais en janvier, février, vraiment au cœur de l'hiver, au moment le plus froid, on est dans des gorges assez profondes. Donc, il fait très froid. On n'y voit pas beaucoup le soleil. Mais du coup, effectivement, cette route de glace permet de rejoindre les.
Quelle impression ça fait de marcher sur de la glace? Vous dites elle est transparente, on voit même les cailloux du lit.
Parfois, et parfois c'est un amas de blocs complètement chaotiques. Enfin, c'est un peu comme sur le lac Baïkal, la banquise du Baïkal. Ça a vraiment différentes formes.
Et on est les uns derrière les autres. Vous étiez à quel dans la dans
oui, ouais, ouais. C'est vrai qu'on se suit globalement.
Et puis chargé vous-même, c'est ça. Vous n'étiez pas sûr de revenir puisque vous alliez chercher votre visa pour continuer. Donc vous étiez obligé d'emmener vos affaires avec vous.
Ouais.
Ça faisait combien de kilos sur le dos ça?
Je crois que quand on est descendu, je devais avoir 25 kilos, je pense, sur le dos.
Dit-elle avec un sourire.
C'est impressionnant
enfin, de marcher comme ça sur la glace, on a peur que ça.
Non.
C'est un rêve parce que tout
Non, c'est moi, à partir du moment où je sais que eux le font, moi j'ai aucune raison de
craindre. Pas le faire. Ouais.
Je pense que j'avais peur de pas grand chose en fait et donc pour moi. Il n'y a pas de mort, c'est quelque chose que les locaux savent faire. Des morts, il y en a que récemment parce que tu te retrouves à emmener de plus en plus de gens avec du coup des jeunes qui n'ont pas l'habitude, qui courent chacun, ensemble, etc. Alors que nous, on l'a fait à l'ancienne et il faut rester deux jours dans une grotte parce qu'il neige, parce que ça devient dangereux. On attend, mais moi, ça me posait aucun problème. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et la neige poudreuse posée sur la glace, elle est un
ça,
peu...
Ça, c'est pratique, ouais. Quand il n'y en a pas, c'est plus dur, c'est sûr.
On a l'impression d'une glissade.
Et quand il y a trop de neige, ça devient un vrai couloir d'avalanche, un étau d'avalanche, ça devient dangereux. Mais quand il y en a un tout petit peu, c'est parfait.
Parfait. Et vous avez été heureuse d'avoir un bouquet de génévrier dans votre chapeau à la sortie. C'est le test, c'est ça.
Fière et heureuse, j'avoue.
Alors, ça, c'est après, vous allez rechercher votre visa et vous revenez au village. Mais c'était étonnant. Donc, quand vous avez emmené...
Après avoir eu ma prolongation de visa, on va dire, c'est là qu'a commencé le travail, puisqu'on était 3 semaines sur le fleuve gelé. C'est là que j'ai travaillé vraiment pour... C'est là que j'ai travaillé avec les locaux comme porteur.
Sur le fleuve. Oui, vous montrez ce que c'est que... Le touriste français, quelquefois, Mais quand vous avez emmené vos amis, les nonnes, comment est-ce qu'elles ont pris l'idée de marcher sur la glace?
Bah, Exactement comme moi à l'époque. C'est-à-dire, certaines n'avaient pas d'inquiétude, ou moins. Yangdol, elle en avait un peu peur, mais en même temps, elle disait rien. Et puis, une fois le pied posé sur la glace, elle avait plus peur, parce que c'est toujours pareil. Quand on imagine des choses,
Mais ça glisse pas.
Ah, bah, si, on peut glisser, on peut tomber, mais ça s'apprend. Enfin, il faut être un peu dans les genoux, c'est relativement plat, enfin c'est un faux plat, mais ça, enfin voilà, on peut être amené à marcher dans l'eau, après la glace elle peut être difficile, elle peut être cassée, enfin, mais après elles sont vaillantes, donc ça c'est pas du tout un problème.
Elles sont vaillantes.
Mais il y en a 5 qui l'avaient jamais fait, il y en a 2 qui l'avaient déjà fait, mais les 5, je pense que c'était une excitation. C'est quand même le fleuve gelé, c'est quelque chose pour tous en Scarry. Enfin, c'est, oui. Et elles ont été très heureuses et très fières de le faire, vraiment, je crois.
L'âge initiatique est étonnant. Alors, les photos que vous avez faites, parce que non seulement vous les accompagnez, vous êtes la traductrice, l'infirmière, la coordinatrice de tout, et en plus, vous faites les films, les photos, alors vous étiez en avant, à l'arrière, vous accompagnez, c'est génial. Hein.
Mon expérience du fleuve gelé m'a permis, de filmer cette caravane.
Mais là, sentiment de responsabilité, oui.
L'avantage, c'est que sur le fleuve gelé, il y avait Tachi, un homme du village qui lui est guide sur le fleuve gelé, qui par chance n'avait pas de groupe et qui du coup, et avec qui j'avais bossé comme porteur à l'époque justement, donc je connais très bien et qui nous a emmené. Donc moi, ça me déchargeait, on va dire, de cette, parce que de toute façon, je pouvais pas jouer ce rôle-là. Moi, je ne connais pas le fleuve gelé. C'est quand même quelque chose qui peut être foncièrement dangereux. Il faut savoir par où passer. Faut connaître la glace. Donc moi, je pouvais pas prendre cette responsabilité d'être le guide, de n'avoir personne d'autre et de les emmener elles. Donc là, il y avait Tachi, effectivement, qui jouait vraiment le rôle de guide sur le fleuve gelé. Et moi, ça me permettait de courir, effectivement, devant, derrière, de revenir, de les rattraper.
Alors, elle va faire ce voyage extraordinaire de découverte de l'un comme des touristes. Enfin, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est leur retour au pays, parce que vous êtes revenu par un autre chemin qu'elle allait, un peu comme les rois mages, chacun l'itinéraire d'aller n'est pas celui du retour, et c'est extraordinaire, parce qu'en fait elles ont acquis auprès des villageois, elles ont été vraiment quelque chose qu'elles avaient fait, et le regard des autres a changé. L'école qu'on va construire pour qu'elle ait une instruction sort aussi de terre. Et la rencontre avec, au retour, puisqu'elles vont raconter, on peut pas te dire ce que c'est.
C'est sûr qu'on a, le voyage en Inde a été quand même un voyage de découverte absolument incroyable. Alors on a été effectivement des touristes qui avons fait le tour de l'Inde. Hein. On a pris transport en commun.
Mais au retour, ils ont vécu comment leur retour au pays, au village?
Ouais, mais j'explique juste un tout petit peu le voyage avant parce que c'est vrai que le voyage, on a été vraiment aux quatre coins de l'Inde et on a été dans tous les lieux bouddhistes, parce que ça, c'était très important pour elle. Mais moi, mon souhait, c'était véritablement de leur montrer la plus grande diversité possible. Et l'Inde est un pays qui a une diversité sur tous les plans extraordinaires, qui va d'un extrême à l'autre. Et donc, on a vraiment été du Rajasthan aux îles Andaman et dans des endroits où aucun Zanskari n'avait jamais été, les îles Andaman, par exemple. Donc, c'est vrai que pour les villageois, c'était découvrir le monde à travers elle, à travers leurs yeux, et c'est là où le film prend toute son importance, parce que c'est un outil de mémoire vraiment qui avait une force, je dirais, pour elle, pour les villageois aussi. Quand on est rentré, je pense que les villageois avaient le temps de se rendre compte de ce que pouvait être le village sans la nonnerie, sans plus aucune nonne. Donc là, on se dit on a le temps de se dire, est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Alors, si c'est pas ce qu'on veut, il va falloir qu'on s'implique. Donc, c'est un changement d'attitude, un changement de regard. Et puis, ça a aussi été, c'est Caroline, c'est une étrangère, elle n'aime pas de chez nous, regarde ce qu'elle nous permet de vivre, finalement. Bon, il faut qu'on soit à la hauteur, Et là, tout d'un coup, effectivement, ils sont venus nous chercher, et c'est plus moi qui paye pour qui nous emmène, c'est Ah non, là, on vient les chercher, on fait l'honneur de les chercher, on fait l'honneur de les accueillir au bout de la vallée, où il y a le col par lequel on est rentré, effectivement. Et puis, ça a été, voilà, une grande fête. Et puis après, il y a des mois et des mois de partage, où elle raconte, ça s'est fait chacun de son côté, dans une certaine intimité aussi.
Oui. Alors, vous voulez nous dire qu'en fait, quand elles ne sont pas là, comment on fera s'il y a un mort pour prendre en charge la prière? Et puis là, elles amenaient le monde. En fait, vous leur avez donné une force et un lien avec le village qui reprend sens. Les deux reprenant sens ensemble.
Les villageois ont été vraiment très très fiers de ce qu'elles ont vécu en fin de compte. Et très fiers de voir qu'elles ont été quelque part ambassadrices de leur village, de leurs valeurs en Inde, puis après en France.
Voilà, on va voir avec vous la France.
Puis après avec le film, effectivement, qui est retombée, je dirais, pour le village, pour la donnerie, au travers de la construction de l'école, une école qui a ouvert ses portes alors qu'on était en voyage en Inde et qu'on attendait depuis longtemps, mais c'est un hasard qu'on pouvait même pas imaginer et qui fait que finalement dans cette aventure, on a toutes ensemble été dépassées par nos rêves. Ça devait être juste un voyage au départ, une caméra parce que il fallait bien qu'on ait un peu de mémoire de ce voyage qui était tellement dense. Mais on est allé bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer et vivre, en fait.
Alors, on va écouter quelques secondes avec Emmanuel, une forme de prière, de chant de prière.
Une de leurs prières.
Alors nous sommes toujours avec Caroline Riegel, toujours sur Fréquence Protestante, bien loin, c'est vrai, du Xanskar, 01 45 72 6000, avec la joie de comprendre le sens de ce voyage avec vos amis, les nonnes, et la prolongation, non seulement pour elles, pour le village, pour nous aussi, dans cette rencontre, et pour cette grande question, comment va être la modernité dans ce pays du Xanskar qui a été protégé, qu'est-ce que ça représente? Alors, vous avez évoqué la France, Caroline Riegel, et je trouve ça merveilleux comme idée d'avoir pensé que vous vouliez leur faire connaître votre pays.
De toute façon, l'Inde, c'est leur pays. Donc je dirais connaître le monde, il faut au moins connaître son
Mais votre
son
pays
univers.
À vous.
Après, vu notre relation, vu que moi ça fait 12 ans que je vais là-bas, j'ai passé presque 3 ans sur place, je connais leur famille, à un moment c'est juste dans la relation, c'est juste pas possible de ne pas imaginer qu'elles ne connaissent pas l'univers, le mien, celui que dans lequel je suis la plupart du temps quand je ne suis pas ou quand je suis pas avec elles et d'où je viens et puis même au-delà de ça, c'est on fait jamais rien tout seul, même si c'est vrai que le voyage en Inde c'était ma promesse, j'ai financé ça de façon personnelle, mais malgré tout on fait rien tout seul et il y a forcément des gens, des amis, qui vous aident, qui à un moment donné vous permettent de vous aident à revenir, vous aident à préparer, vous aident à faire. Et ça valait pour le voyage en Inde, ça valait pour le film. Là en plus il y a une équipe derrière pour le montage, pour la production, je dirais du film. Ça vaut pour la construction de l'école et là ça va encore plus loin parce que là il y a vraiment un financement collectif, il y a eu des dons, et c'est vrai que les avoir, moi je me voyais absolument pas montrer ce film la première fois, les premières fois en tout cas, toute seule. Pour moi il fallait qu'elle soit avec moi, c'est notre histoire, c'est un hommage à ces femmes que j'aime profondément et je pouvais pas imaginer ça sans elles, c'était pas pensable pour moi. Et je leur avais dit, si j'arrive à faire un film, j'ai quand même un espoir d'avoir... On aura une dynamique unique dans nos vies pour que vous puissiez venir en France. Et on a réussi, parce qu'on part vraiment de loin, il faut faire les passeports. Ça, c'est bien plus compliqué que voyager en Inde, à la rigueur, une carte d'identité, ça va. Mais un passeport, c'est faut l'obtenir. Enfin, ça a été, je sais pas, voilà, elles sont bénies des dieux parce que c'est pas possible autrement, mais on a eu les passeports en vol. Moi, j'avais acheté les billets, mais je leur avais dit un an plus tôt, hein, il faut vraiment commencer à faire et on s'était pas gagné d'avance, et c'est vrai que du coup, on a été ensemble, on est revenus ensemble du Zanskar, on a été ensemble quand on a, présenté ce film. Et les avoir en France, ça a été, pour moi d'abord, elles ont rencontré, tous mes amis, tous les gens qui me sont chers, mais au-delà de ça, ça a été...
Vous les avez en Alsace?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on est arrivé à la maison en Alsace, on dit, mais Caroline, mais c'est le paradis ici, mais pourquoi tu viens chez nous?
Vous voyez, quand je vous disais au début que quelque part il y avait un lien entre la terre alsacienne, ce village et leur village, voilà.
Et... Mais ça a été une façon absolument extraordinaire, au-delà de tout ce qu'on peut rêver, imaginer, de remercier tous les gens, tous les gens qui à un moment sont des gouttes d'eau de votre vie, ouais. des gouttes d'eau de notre aventure,
le nom de votre association
extraordinaire.
Le nom de votre association, c'est bien Gouttes d'eau pour le Zanskar, qui se prononce. Alors, un moment étonnant pour elles qui sont nonnes, ça a été la rencontre avec des religieuses.
Oui, alors on a été, c'est vrai que le voyage en France, on a été plus en immersion, on a été beaucoup plus loin dans la rencontre, dans l'amitié, dans l'échange avec d'autres communautés religieuses aussi, notamment, un hasard de choses, c'était pas... Et il y a une rencontre qui a été marquante avec les dominicaines de Prouille, près de Carcassonne, parce qu'elles avaient, une des dominicaines avait lu mes livres, était au courant que j'avais ce projet de film Semeuse de joie et m'avait vraiment très intensément demandé, prié de passer leur rendre visite avec les nonnes quand elles seraient en France. Et on est effectivement passé, et c'est vrai que ça a été très très un moment d'échange. Enfin, il y a eu échange de prières, chacune s'imprégnait des prières de l'autre, un moment d'échange sur leur chemin de vie, leur foi, leur quotidien.
Vous étiez la traductrice de tout,
oui. Et puis quelques mois plus tard, la doyenne, sœur Marie Réginalde, à 98 ans, était sur son lit de mort, et je reçois un coup de fil des dominicaines qui me disent « Caroline, ma chère Caroline, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler nos amis du Zanskar et leur demander d'accompagner la mort de notre doyenne avec leurs prières ?» Et je me dis « mais c'est dingue, parce que quelque part, ces femmes qui sont des femmes de foi, j'admire la foi des gens, mais la foi au sens très noble du terme, la foi sans tolérance, la foi sans appréciation pleine de la diversité, je ne sais pas ce que c'est, moi. Et là, quand on voit, c'est vrai, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand on voit ces femmes se retrouver finalement, être aussi différentes et se retrouver sur l'essentiel et s'admirer, s'apprécier, se éclater de rire sur cet essentiel-là et ne retenir que ça, je me dis, ben voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Bon, tout est là.
Et elles ont pu...
C'était vraiment très fort, très beau.
Les dominicaines ont su, la supérieure a su.
Ouais. La doyenne a su qu'elle était accompagnée.
Parce que... elles ont vu Paris quand même, vous leur avez montré Paris aussi.
On a vraiment fait un tour de France.
Mont-Saint-Michel, les lieux un peu religieux comme ça.
Pas seulement, on a été dans des lieux religieux parce que je sais que ça c'est important pour elles, parce que ça leur parle aussi, parce que c'est toute leur... Mais pas seulement.
Est-ce que le pont le viaduc de Millau, le nouveau, c'est quelque chose?
On a pris le funiculaire, par exemple, au Touvet, près de Grenoble, où elles ont vu les ponts levant, ouvrant à Saint-Malo. Et longtemps à regarder en se disant, mais combien il y a d'intelligence derrière tout ça?
C'est ça qui est très important. Alors, justement, qu'est-ce que ça va leur... Enfin, je veux dire, pour le Zanskar, elles vont rapporter encore au village... Enfin, elles ont rapporté tout cela au village. Et ces jeunes du village, vous dites, il n'y a pas de poste beaucoup pour des jeunes aujourd'hui au village. Comment on va faire quand ils vont être éduqués? Il y aura une fuite. Est-ce que ça donne une force? Enfin, rien que leur exemple de ces 9 femmes, et ce village d'Ingri tout bloqué dans le sens là, est-ce que ça peut aider à une rencontre avec le monde actuel moins difficile? C'est ce que vous êtes très inquiète de ça, et vous n'êtes pas la seule, il y a des instituteurs.
Je ne suis pas forcément très inquiète de ça.
Je pense
que les changements, les chamboulements sont une évidence. Enfin, c'est même pas la peine de lutter contre le changement. Être acteur du changement pour que le changement serve à tous, ça c'est plus dur. Alors que subir le changement, être aveugle face au changement ou être quelque part à côté de la plaque face au changement, ne pas le comprendre, ça c'est plus risqué quelque part. Mais c'est risqué ici comme ailleurs. Pour l'instant, je dirais que c'est trop tôt pour le dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tout ça servira vraiment. Moi, je sais que par contre, tout ce que j'ai fait avec elle, tout ce que j'ai fait pour elle en tout cas, il y a une chose qui ne me quitte jamais, c'est d'être sûre que ce que je fais, c'est pour les rendre plus forts dans leur chemin de vie.
C'est ça
l'essentiel.
C'était votre espoir.
Sinon, ça devient de l'égoïsme. Qu'on le fasse ensemble, que je vive aussi des choses que je rêve de vivre avec elle, ça c'est une chose. Mais il faut que ce qu'on vive les rende plus fortes dans leur chemin de vie. Ça, je dois le respecter par-dessus tout. Et ça, c'est important parce que c'est en étant plus forte qu'elles seront elles aussi, je veux dire, quelque part, des acteurs du changement, des passeurs de... Voilà, des passeurs d'avenir, des passerelles pour l'avenir, pour d'autres, tout en restant un élément parmi tant d'autres, parmi cette diversité qui est la seule, quelque part, la seule chose qui fait qu'on existe en tant qu'individu.
Et en particulier, il y a 5 ans, comme maintenant, il y a le téléphone, enfin, le satellite, le téléphone.
C'est une antenne.
Des portables.
Voilà. Ah, tout le monde a un portable.
Les jeunes, tout le monde a des portables.
On n'est pas passé par le téléphone avec fil, filaire. On est passé de rien
directement,
directement. Et tout le monde avait un téléphone.
Je me souviens, Jean Mallory, pour le lycée au Groenland, quand il avait été instituteur à un moment donné, c'était ça. On est passé d'une civilisation esquimaux, enfin, entre guillemets, inuit, à ce monde moderne. Et alors, justement, j'ai repensé aussi, parce que lui parlait de la pensée, la méditation des Inuits aussi, et il dit la part, c'est exactement comme vous, la part de la méditation dans une vie. Les jeunes là-bas, en voyant ces nonnes dans le village et tout, il y a une part de réflexion, de méditation. Et est-ce que ça les intéresse eux aussi? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France aussi, quand on a le choix d'un métier, parce que c'est... vous dites, dans l'éducation, ça serait intéressant, la méditation, la réflexion.
Il y a une différence fondamentale entre un endroit comme la France et un endroit comme le Zanskar. C'est qu'aux Zanskar, on est dans une région où la religion fait partie intégrante de la façon d'être, de la façon de vivre et de la façon de penser, ce qui n'est plus le cas chez nous. Chez nous, ça devient un choix. On fait un choix de religion ou pas, en pleine conscience. Là-bas, ça fait encore complètement partie intégrante.
Même pour les jeunes, même s'ils ne croient pas beaucoup.
Ah mais ils croient, enfin c'est... Ah, mais c'est... Je pense pas que les jeunes ne croient pas, vraiment. Il n'y a pas du tout de crise de foi par rapport au, on va dire, au bouddhisme. Ça, non. Qu'on pratique moins, soit accordé parce qu'on travaille, parce que et moins de temps accordé à la prière, ça c'est sans doute. Mais par contre, non, parce que croire en le bouddhisme, c'est aussi croire en la réincarnation, en l'éveil. Et ça, c'est des choses qui sont complètement inhérentes au mode de pensée, en tout cas.
Et alors cette rencontre avec ce monde-là, vous dites. Dans la future école en France, même dans l'école gouvernementale, il y a cette part de manière d'être au temps, à la réflexion, ça ne fait qu'un. Est-ce que ça, le choix du métier aussi, ça sera important?
Je trouve que c'est vrai que l'éducation moderne actuelle, et ça vaut en Inde comme en France, c'est absolument le. C'est sûr qu'elle. Elle focalise peut-être un peu trop sur des aspects, des matières, et elle oublie peut-être sans doute tout un pan de l'éducation, parce que pour moi, il s'agit pas juste d'éduquer le cerveau, il s'agit d'éduquer le cœur, il s'agit d'éduquer le corps. Alors l'éducation physique, on en fait, ça admettons. Oui. Le cerveau, on pratique certaines intelligences, on éduque certaines intelligences, mais on les éduque pas forcément toutes. Et le cœur, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie fondamentalement dans notre éducation. Et il y a sans doute énormément de choses à faire sur ce plan-là, et ça, partout.
Et vous dites aussi que quand on choisit un métier, savoir où on voudra l'exercer, c'est dans une ville, dans un lieu très urbanisé, ou avec un lien avec la nature aussi.
Mais quand on
c'est
voit le nombre de gens qui se retrouvent à quitter leur métier parce qu'ils n'en peuvent plus d'être en ville, ou parce qu'ils n'en peuvent plus d'être dans un bureau, parce que je pense qu'effectivement, il faudrait avoir une pleine conscience de ce à quoi on s'engage, et pas juste d'un salaire. L'air oui. qu'on aura ou de voilà oui. parce que tout ça c'est un choix de vie, un choix de vie ça se fait en fonction de beaucoup de paramètres et pas forcément juste quelques-uns et qui font qu'après il y a plein de gens effectivement qui sont pas forcément aussi heureux que ça dans leur quotidien, dans leur travail. Et c'est dommage parce que je pense que l'homme il donne bien plus quand il est à l'aise, quand il est bien et quand il est heureux de ce qu'il fait, quoi, de ce qui.
Alors Caroline, vraiment d'abord merci vraiment d'avoir été avec nous alors que en plus c'est votre anniversaire donc et on vous a éloigné un tout petit peu des vôtres et de votre village juste pour cette émission. Mais on voudrait aussi vous aider. D'abord, je dis que si on peut acheter le film, on peut
il y a le DVD avec
et qui a une partie très intéressante où vous expliquez beaucoup. Il y a le film et puis les options. Il y a cette explication de vos choix,
la construction de l'école. L'interview où j'explique un petit peu toute l'aventure.
Elle va bien l'école. Elle se construit. Maintenant, on en est aux cellules des nonnes. Hein, c'est bien
oui,
ça.
Oui,
voilà. Alors, il y a une manière donc de vous aider. Donc et puis on peut
dans l'achat du DVD parce qu'un tiers du coût du DVD, du prix du DVD revient à la nonnerie.
À la nonnerie. Alors ça c'est sympathique. Et puis quand vous avez, je crois aussi, été en lien avec une école en France où vous envoyez aussi des messages.
Pendant le voyage. À l'époque.
Ouais, alors il y a un site. Vous avez un site qui s'appelle caroline@baikal-bangkok.org.
Ça c'est mon adresse mail.
C'est votre adresse mail. On peut le demander à notre radio. On va redonner la référence de la radio. Et puis vous avez un site.
Ouais. Alors le site qui s'appelle tixpa.org. T-H-I-G-S-P-A. Ça veut dire goutte d'eau en tibétain en fait. .org. Et donc là, on tombe sur le site. Là, il y a mon adresse. On y retrouve mon adresse mail. On y retrouve toute l'explication du film.
Les photos, les beaux interviews.
On y retrouve toute l'explication de l'association. Enfin, on y retrouve beaucoup de choses.
Parce que c'est goutte d'eau. Quand on dit qu'on peut donner une goutte d'eau pour l'exemple là, c'est symbolique. C'est-à-dire continuer à vous aider pour que cette réalisation, et on a l'impression tellement que c'est tout le village maintenant qui est impliqué et qui peut même servir pour d'autres villages. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement ces groupes de femmes tellement sympathiques, mais c'est vraiment un ensemble et une orientation de vie. Et je dirais, au-delà de tout, c'est beaucoup plus que communique, c'est vraiment l'amitié d'un pays à l'autre et d'un bout du monde à l'autre. Et ça, je trouve ça, au-delà de tout, avec une grande tolérance. Alors ça, c'est pas mal. Vous y retournez bientôt, Caroline?
Oui, j'y vais cet été-là.
Voilà. Vous leur dites que, aujourd'hui, sur une radio.
je leur ai dit, je les ai dit ce matin au téléphone, elles sont sous un mètre de neige, là. C'est pas fini.
Mais elles peuvent vous écouter sur Internet à partir de demain, si elles ne savent pas le français, aucune.
Internet, par contre.
Ah, il n'y a pas encore Internet. Mais voilà. Mais est-ce qu'elles apprennent, il y en a une qui a voulu apprendre le français dans le lot?
Quand elles étaient en France, elles ont appris des mots de français, hein.
C'est
toujours quand je les ai au téléphone, parce que c'est, allô, ça va? Oui, ça va.
Ça va très bien.
En tout cas, merci.
Alors, je rappelle aussi donc ceci et puis votre livre Méandre d'Asie qui est paru chez Phébus et il y avait le tome 1 qui racontait le lac Baïkal et les Gobi. Et puis vous étiez venu aussi pour Éclat de cristal qui racontait. J'avais beaucoup aimé qui était votre tout premier livre mais qui est paru après qui était sur au Gabon l'aventure avec les constructeur de
barrages
au Gabon. Et quand on le lit bien, on comprend aussi votre élan avec les autres et votre force et aussi toute votre simplicité, votre cœur. Alors merci de tout cœur et bon anniversaire, Caroline.
Merci Claude. Merci beaucoup.